Alors on continue en fait donc l'étude du livre des rois avec ce chapitre, cette section du chapitre 17 au chapitre 19. Et donc cette section, pour replacer un peu dans le plan de l'étude du livre des rois, c'est la section, on aborde cette section centrale qui va partir donc du chapitre 17 du premier livre des rois jusqu'au chapitre 13 du deuxième livre des rois. Je rappelle que le découpage de un roi, deux rois n'est que concret, pratique, pour des raisons de manipulation des rouleaux du livre à l'époque, mais que c'est un seul livre, donc c'est pas étonnant qu'on ait une section qui soit en plein milieu et qui chevauche dans nos Bibles deux livres qui semblent séparés. Et cette section, on va pas évidemment toute la regarder, mais on va commencer par trois premiers chapitres, hein, puisque c'est une section qui couvre tout le ministère de Élie et Élisée, et essentiellement avec la période de la maison, du règne de la maison d'Akab. Et en particulier, on va regarder donc ces trois chapitres, de 17 à 19 aujourd'hui, qui s'ouvrent avec l'entrée en scène en quelque sorte de Élie, et qui va se fermer avec l'arrivée, l'entrée en scène de Élisée. Alors, juste quelques éléments du contexte géopolitique de l'époque. Hein. Le contexte, c'est, on lit ça juste avant à la fin du chapitre 16, que Akab, fils d'Omri, qui avait régné très peu de temps, Omri, hein, fit ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et il y a plusieurs versets qui vont dans ce sens-là, où Akab accumule vraiment les choses contre l'Éternel, plus que tous ceux qui l'ont fait avant lui. Alors, j'ai hésité à lire l'ensemble des trois chapitres, mais c'est peut-être un peu long, donc je me permets de faire une petite synthèse rapide des éléments, et surtout que c'est, pour la plupart, ce sont quand même trois chapitres qui sont relativement très connus, hein, probablement qu'on ne connaît pas l'ensemble ou peu l'ensemble des deux livres des rois, mais ces chapitres-là, en général, on a à peu près en tête les événements qui sont repris dans ces chapitres, donc on va juste pointer sur quelques petites choses. Donc le chapitre 17 commence par la première intervention d'Élie, qui annonce donc à Akab une sécheresse qui va arriver. Et Dieu lui demande d'aller se réfugier après cette annonce qui est potentiellement un peu dangereuse pour lui. Élie va se réfugier près du torrent du Kérit, et là il est ravitaillé par les corbeaux. Alors c'est pas dit comme ça dans la Bible évidemment, mais de là vient aussi l'expression ravitaillé par les corbeaux, en plein désert et pendant cette famine qui s'annonce. Un ange de Dieu lui dit de partir, et il va à Sarepta, où il rencontre une femme veuve, et à laquelle, vous vous souvenez, il va demander d'utiliser la fin de son huile, prioritairement pour lui faire un gâteau, et puis sa cruche d'huile ne va pas se vider pendant 3 ans, et donc il va rester là. Et puis, plutôt sur la fin de la période, cette femme voit son fils mourir, et Élie prie, se couche sur lui, et ce fils-là est ressuscité, et ce qui génère que la femme reconnaît que c'est vraiment un homme de Dieu. On s'étonne d'ailleurs de cette reconnaissance tardive de l'homme de Dieu. Chapitre 18, Élie reçoit la mission d'annoncer le retour de la pluie, et rencontre Abdias, qui est donc auprès de Akab, et il va y avoir un échange parce que Abdias dit, mais on t'a cherché pendant 3 ans, on t'a pas trouvé. Si je dis, je reviens à Akab que je t'ai trouvé, il va me tuer parce qu'il va me dire que j'ai mal cherché. Et donc, voilà, très inquiet de passer le message. Mais bon, le message passe et Élie met à l'épreuve les prophètes de Baal avec cette mise en scène que tout le monde connaît et finit par le massacre des prophètes, des 450 prophètes de Baal. Et juste après, là j'introduis quelque chose qui est une lecture un peu personnelle par rapport à ce qu'on peut lire, c'est que Élie demande à son serviteur d'aller vérifier que la pluie arrive bien. Et là j'introduis une notion de doute que vous verrez, je vais développer un peu après, sur le fait qu'il avait annoncé la pluie, mais après le massacre des prophètes de Baal, il semble qu'il y ait un petit doute, et donc il veut vérifier, parce qu'il n'y a toujours pas de nuages dans le ciel, et que ça commence peut-être à l'inquiéter un peu. Je continue, et donc chapitre 19, on a la fuite d'Élie devant les menaces de Jézabel, et puis Élie tombe en dépression, en quelque sorte, et Dieu vient à la rencontre d'Élie et lui demande ce qu'il fait ici. Hein, que fais-tu ici? Alors que Dieu avait, un ange lui avait dit de venir là, de se déplacer dans cet endroit. Merci. Voilà, je suis au chapitre 19. Et donc, Dieu vient rencontrer Élie et lui demande à deux reprises, que fais-tu ici? Et puis, finalement, Dieu va désigner Élisée comme successeur de Élie et lui révéler aussi qu'il n'est pas seul. Donc voilà, juste pour remplacer la lecture, mais sans rentrer dans les détails. Alors, je vais reprendre le plan de présentation qu'avait suggéré Joël dans l'introduction à ce livre, qui est de regarder ce que ces passages nous disent de l'homme, de Dieu et de Christ. Et on va commencer par ce que ce passage nous dit de l'homme. Alors, on a intitulé cette présentation et ce passage-là « des hauts et des bas ». J'ai presque envie de dire que c'est des bas et des hauts. Puisque quand on va regarder un peu l'évolution, c'est plutôt ça, dans ce sens-là, que ça se passe. Et donc, j'ai retracé un peu quelques grandes étapes de la vie d'Élie. Et puis, je vais m'arrêter un peu sur quelques-unes, et notamment sur les tournants que je vois dans ce passage-là pour Élie. La première chose, le premier, c'est que Élie est dépendant et, en tant que prophète, va annoncer la sécheresse qui va arriver. Et il a voilà, ce message de Dieu, et il se met au service de ce message de Dieu. Et ensuite, il expérimente les soins de Dieu puisqu'il est mis pendant la famine, il est ravitaillé, il est mis à part, il est protégé. On découvre après qu'il a même été caché, parce que pendant ce temps-là, Achab le cherchait vraiment pour le tuer. Ils ont cherché partout, ils ne l'ont pas trouvé. Et donc, il a été protégé, mis à part et nourri pendant ce temps-là. Et il semble qu'Élie vive correctement cette période. Et il va même expérimenter la puissance de Dieu en appelant la résurrection et en priant pour la résurrection du fils de la veuve. Et il va voir cette résurrection se produire. Et donc Élie va découvrir si on peut, peut-être pas découvrir, mais en tout cas expérimenter la puissance de Dieu et ce que ça donne, et puis les soins de Dieu pour lui pendant cette période-là. Et là, il y a un tournant pour moi. Donc quand je lis le texte, c'est que vous souvenez, la veuve à ce moment-là dit « Ah ça, je sais que tu es un homme de Dieu. » Alors pourquoi c'est un tournant? D'abord, on peut s'étonner que la veuve n'ait pas compris que c'était un homme de Dieu, alors qu'elle a vu depuis 3 ans que ce qui lui avait été promis comme l'huile qui arrivait, ça arrivait. C'était quand même assez extraordinaire quand même comme chose. Et nous, on le prend comme vraiment comme un miracle. C'est dit comme c'est évoqué comme ça dans la parole. Et pourtant, la veuve ne réalise pas qu'elle a avec elle, à côté d'elle, quelqu'un qui est un homme de Dieu. Assez étonnant. Et peut-être que ça nous interroge aussi sur les choses qu'on prend un peu naturellement, et notamment peut-être dans nos pays un peu évolués dans le sens économiquement du terme. On prend ça, oui, je ne voudrais pas que ça soit mal interprété, c'est-à-dire qui ont une aisance économique, on va dire. On prend ça un peu comme naturel. On prend les choses qui, voilà, on a à manger tous les jours, on a de quoi se vêtir, comme le suggère le Seigneur, on a même beaucoup plus que ça, on a des maisons avec plein de choses dedans, et c'est peut-être compris comme étant quelque chose de naturel. Et on ne se rend pas compte que ça aussi, c'est un cadeau de Dieu. Alors, on n'est pas forcément à côté d'un homme de Dieu qui nous a dit qu'il allait subvenir à nos besoins. Mais c'est aussi, peut-être que ça nous parle aussi des choses. Et puis, quand on a des difficultés, Quand les bas arrivent, que ce soit dans la relation, que ce soit matériel ou tout ça, c'est là qu'on va voir un peu les vraies délivrances de Dieu. Je dirais presque que quand c'est courant, on l'oublie. Et puis il faut qu'il y ait des choses exceptionnelles, ce qui implique que de temps en temps, on a une difficulté exceptionnelle aussi, pour se réaliser que oui, Dieu est à côté de nous, que le Seigneur marche à côté et nous aide tous les jours dans des choses qui nous paraissent banales, mais c'est pas si banal que ça. Surtout quand on va comparer, et c'est l'expérience qu'on peut faire, de comparer avec des pays où c'est pas banal d'être assez libre, d'être libre de venir dans un lieu de rassemblement, de rencontrer les chrétiens, de pouvoir chanter comme on l'a fait ce matin. Hein, les jeunes arrivent et chantent à tue-tête, les portes ouvertes. Il y a des pays où c'est pas possible, ça. Il faut surtout pas faire ça. Sinon, c'est la prison, voire dans certains pays, beaucoup plus que la prison. Et du coup, le courant devient courant. Et pourquoi je dis que c'est un tournant? Parce que la suite, c'est que je fais l'impasse sur le fait que juste après, Élie reçoit la parole de Dieu d'aller annoncer le retour de la pluie. Et il rencontre Abdias pour transmettre à Achab ce message. Est-ce que Dieu lui a demandé de mettre au défi les dieux de Baal, les prophètes de Baal? Ça ne nous est pas dit, ça. Ça ne nous est pas dit. Et moi, j'aime bien voir dans le fait que la femme lui a donné la veuve lui donne un témoignage en lui disant: maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu. Ah! Et je vois Élie qui a pris deux barrettes là. Je suis un homme de Dieu, je suis reconnu. Ce qui fait que derrière, quand il a. Et puis en plus, on le verra plus tard, il se croit vraiment seul. Et du coup, c'est ce qu'il va expliquer après, mais par jalousie pour Dieu, il va aller plus loin que ce qu'on lui a demandé. Il est le seul en Israël, et il y a des prophètes de Baal. Et donc, je vais aller un peu plus loin. Non seulement je vais faire venir la pluie, mais en plus, je vais détruire tout ce qu'il y a de Baal. Alors, vous êtes pas forcé d'être d'accord avec cette lecture-là. Hein. C'est pas dit texto dans le texte, mais on voit pas non plus que Dieu ait demandé spécifiquement à Élie de faire ça. Et j'aime bien voir ce tournant-là. Et donc il va ajouter sa touche un peu personnelle, hein, parce que Dieu va pas assez loin. Il va rendre la pluie comme ça, alors que il s'est rien passé. Et il semble pas que Achab soit retourné de ses mauvaises pratiques. Jézabel règne encore à côté de lui. Et donc ça ne va pas. Et quand Dieu fait grâce autour de nous, on a parfois du mal à l'accepter. Voir des personnes qui reviennent de loin, on va dire, pour ne pas être plus précis, et on a du mal parfois à accepter que Dieu a pardonné à quelqu'un qui a fait tant de mal. Et du coup, on a un peu tendance à vouloir, nous, aller un peu plus loin, acter les choses, faire reconnaître, parfois entendre des repentirs un peu forts, parce qu'on ne peut pas passer comme ça ne peut pas passer les choses sous silence. Et donc, moi, je lis ce passage-là de la part d'Élie un peu comme ça. Il a besoin que vraiment les choses soient nettoyées, et il va le prendre en charge. Et à la fin de ce massacre, l'histoire du serviteur qui va voir s'il y a un petit nuage au sol et qui revient plusieurs fois, est-ce qu'il y a un nuage qui arrive? Et puis après, il y a un tout petit nuage qui arrive. Moi, je le prends comme un doute. Je le lis comme un doute de la part d'Élie. Il a annoncé quelque chose de fort, et pourtant, il a eu une réponse assez extraordinaire en puissance de Dieu. Notez au passage qu'il est allé arroser l'autel. Si vous reliez avec ce que Dieu lui avait dit d'aller annoncer le retour de la pluie, il n'aurait pas pu croire que la pluie arrivait et que ça allait arroser l'autel directement. Ça, c'est un petit truc comme ça qui me fait. Tiens, c'est bizarre. Il va faire arroser son autel pour éviter que ça soit trop évident et facile à faire. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu éventuellement penser que la pluie arrivait toute seule? Ben, il va faire arroser. Bon, ça, c'est un peu, là aussi. Me suivez pas forcément, puisque ça c'est quand même une lecture un peu personnelle peut-être de la parole, mais ça corrobore le fait que quand même, Élie, dans cette période-là, il y met de lui-même. Et Dieu va le suivre. Dieu va le suivre quand même, va répondre à sa prière. Et donc derrière, il va douter que la pluie va arriver. Donc il va falloir qu'il vérifie, et il vérifie avec insistance, en se prosternant en terre, vérifier que le nuage arrive. Dieu lui avait dit que ça arrive. Mais il ne reste pas en paix avec ça. Il n'est pas pleinement en paix avec ça. Et la façon dont je lis explique aussi pourquoi derrière, Jézabel, étant furieuse, lui fait peur. Et tout d'un coup, lui qui a fait massacrer 450 balles avec le feu qui vient du ciel, alors que sur un truc détrempé, il a peur d'une femme qui lui dit « J'aurai ta peau ». C'est quand même bizarre, ça. Étonnant. Et ça, Élie, tout d'un coup, il se sent un peu faible pour mettre en œuvre lui-même. Il se rend compte peut-être qu'il a poussé le bouchon un peu loin, possible, ou pas. Mais en tout cas, il commence à douter, il a peur. Et derrière, il en arrive à un découragement terrible, un découragement jusqu'à la mort, puisqu'il souhaite mourir. Et quand Dieu vient lui demander, que fais-tu ici? Sa justification, c'est, il fallait bien que j'agisse, je suis le seul, je suis le dernier. Et donc, il fallait bien que je fasse. Limite reproche à Dieu de ne pas avoir agi. Si je ne l'avais pas fait, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est ce genre de discussion qui commence avec Dieu. Et là, Élie va demander à voir la puissance de Dieu. Il va demander à voir sa gloire. Et il y a des phénomènes, il y a du vent, il y a de la tempête, et c'est pas Dieu. Et par quoi il est touché? C'est l'autre tournant qui le permet de revenir. Il est touché par la tendresse, par cette voix subtile et douce qui se révèle. Et là, il comprend que c'est Dieu et il tombe sur sa face. Il est touché par la tendresse de Dieu. Là où il reprochait à Dieu de ne pas avoir fait preuve d'assez de puissance, de ne pas avoir pris l'initiative de détruire les prophètes de Baal et qu'il fallait que ce soit lui qui prenne cette initiative-là, il va être touché non pas par la puissance, mais par la tendresse. Par la tendresse de Dieu. Et il découvre au passage le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'était qu'il n'était pas seul. C'est qu'il y avait plein d'autres à côté. 7 000 hommes. Peut-être même que ce 7 000, compte tenu du chiffre, est un peu symbolique. Peut-être que c'est 7 000 exactement, mais peut-être que c'est aussi 7 fois 1 000. Et que Dieu lui dit, mais je me suis réservé plein de gens. Qu'est-ce que tu crois que tu es seul là? Tu crois que je suis dépassé? Dépassé par les événements? Dépassé par Akab? Non, Dieu n'est pas dépassé par les événements. Juste un point un peu. Parce que je m'attarde plus sur cette slide, ne vous inquiétez pas, après ça ira plus vite. Juste un point personnel. C'est pas facile de savoir si on doit agir avec ce qu'on peut faire. Dans nos vides, quand il y a des moments difficiles, la part que l'on doit mettre en œuvre de ce qui est dans notre pouvoir et la part de confiance totale qu'on a à avoir à Dieu, envers Dieu. À beaucoup d'entre vous, je l'ai déjà raconté, mais c'est symptomatique parce que ça a été vraiment une question pour moi à un moment donné, pour des questions très concrètes. Un jour, sur l'entreprise, je passe pas l'échéance d'URSSAF dans 5 jours. 45 000 euros. Et j'ai pas ça. Je venais de commencer l'entreprise il y a 2-3 ans à peine. Et je vais voir le banquier et je lui dis, écoutez, voilà ce qui se passe. Dans 5 jours, ça plante. Je passe pas l'URSSAF et quand on passe pas l'URSSAF, en général, ça se passe pas très très bien dans les entreprises après. Hein. C'est un peu le début de la fin, ça. Et du coup, la personne me dit, ok, et si vous passez, qu'est-ce que vous faites? Bon, ça. J'avais un peu prévu ça, et donc je lui dis, ok, si ça passe, pour je ne sais pas comment d'ailleurs, ok, ben je ferai ci, ça, ça et ça, parce que il faut rectifier ça, ça et ça. Ok, je suis sorti avec un chèque de 45 000 euros. Parce que le banquier dit, OK, j'ai confiance, je vous mets à disposition 45 000. Alors, ce n'est pas un chèque, je dis un chèque, mais c'est pas un... on fait un virement sur le compte, OK. On signe un emprunt, parce que c'est un emprunt quand même, hein, c'est pas non plus. C'est pas non plus tenez cadeau et puis. Et du coup, le lendemain, sur le compte, je regarde, j'ai les 45 000 euros et j'ai 45 000 euros de divers endroits qui viennent aussi. Entre des subventions, des clients, etc. À très peu de choses près, le même montant. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Est-ce que j'ai manqué de foi? Parce qu'en fait, Dieu me disait, j'étais là, t'inquiète pas, je veillais. Est-ce que j'ai manqué de foi ou est-ce que j'ai juste mis en œuvre ce que je pouvais faire et ça a été l'occasion, et c'est vrai, ça a été l'occasion de nouer quelque chose de très particulier avec cet homme-là de la banque, à qui j'avais été transparent en disant, il y a un problème et ça va aller mal. Et derrière, ça a noué une relation qui a été très bénéfique après. Donc, est-ce que j'ai manqué de foi ou pas? Je ne sais pas. C'est parfois difficile de mettre en œuvre à la fois ce qui est en son pouvoir, de rester dépendant de la souveraineté, de la pleine souveraineté de Dieu, et en même temps de voir la délivrance que Dieu pouvait et avait prévue. Parce que le virement qui arrive un jour, hein, à l'époque, ce n'était pas des instantanés. Hein, maintenant, on ne fait que des instantanés, mais ça n'existait pas vraiment à l'époque. Donc il était parti un ou deux jours avant, déjà. Donc est-ce que j'ai manqué de foi ou pas? C'est difficile à savoir. Ça, c'est pour mettre en œuvre quelque chose qui est en notre pouvoir. Et je finis ce parcours-là. Donc Élie découvre que Dieu ne l'a pas laissé seul. Et Dieu quand même, à la fois le soulage de la pression mentale qu'il avait, puisqu'il avait quand même une charge mentale forte à désirer mourir, c'est ce qu'il avait pris, et donc Dieu lui dit, eh bien, je vais te remplacer. Alors il ne le fait pas tout de suite, hein, puisqu'on le voit, on verra dans les chapitres suivants, hein, Élie intervient, et intervient encore assez fortement d'ailleurs. Mais Dieu lui dit, ok, je t'allège de ça. Je t'allège et tu vas, toi, commencer à transmettre. Tu vas commencer à transmettre ce que tu as appris parce que tu vas préparer. Tu vas préparer Élisée. Et du coup, là, Élie accepte sa position. Quelque part, pour un prophète, il est quand même relevé de sa charge. En fait, il ne va pas l'être tout de suite, mais tel que c'est dit à ce moment-là, Dieu le relève de sa charge. Donc c'est quand même à la fois un allègement de la charge et puis hein, on y va. Et là, c'est à la fois les soins, la préparation et la transmission. Et puis on aura plus tard, puisque c'est à la fin de la section hein, qu'on verra, et Élie sera élevé et ne passera pas par la mort. Et juste un point là-dessus pour attirer l'attention. Dans l'Épître aux Hébreux, on lit ce verset, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Et j'aime bien voir dans ce parcours d'Élie où j'estime qu'il y a des bas dans ces moments-là, et lui a exprimé des bas. Mais ce qui compte, c'est que Élie restera celui qui a été élevé dans des chariots de feu. Et donc l'issue de sa conduite nous permet aujourd'hui de considérer que c'est effectivement un grand homme de Dieu, dont on peut imiter la foi, même si à certains moments on peut voilà, dire est-ce qu'il n'a pas manqué de foi? J'avance maintenant, on va voir ce passage nous dit au sujet de Dieu. Et en particulier, je l'ai un tout petit peu mentionné, mais Dieu a averti de ce qu'il a fait, ce qu'il fait. Il avertit son prophète, il lui dit, voilà, va annoncer la sécheresse, va annoncer le retour de la pluie. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément des prophètes, en tout cas pas de la taille d'Élie, dans nos rues, mais on a quelque chose de beaucoup plus important qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit le plan de Dieu. La parole de Dieu nous dit ce qui va se passer, ce qui va arriver. Et il nous faut aussi écouter la parole de Dieu pour savoir vers où on va. Et Dieu répond aux prières d'Élie avec la résurrection de l'enfant. On voit qu'il répond en résurrection. Et il va aussi répondre avec le feu du ciel. Et tout à l'heure, je l'ai mentionné. Alors que pour moi, ce n'est pas franchement ça que Dieu voulait. Il n'a pas donné spécifiquement d'ordre. Mais la foi d'Élie, l'engagement qu'il a montré, parce que ce n'était pas rien quand même, hein, de se mettre en risque comme ça devant les prophètes de Baal, c'était quand même pas, c'était pas rien. Mais Dieu a répondu à cette foi-là, et de façon merveilleuse. Et du coup, ça nous incite à prier avec insistance, en ayant en tête la souveraineté de Dieu. Je l'ai dit plusieurs fois, mais ne craignons pas de faire agir Dieu contre son gré. On ne fera pas bouger le bras de Dieu s'il ne veut pas. Hein. Ça, c'est... On n'est pas assez fort pour ça. Mais quand même, ça veut dire qu'on a à prier quand même avec conviction que l'on a, et le Seigneur nous enseigne ça évidemment, hein, conviction que ce qu'on demande, on l'a. Et en même temps, c'est difficile à gérer ça dans nos esprits. Et en même temps, on est en face d'un Dieu pleinement souverain qui peut dire non. Et à des grands hommes de Dieu, il a dit non. Et du coup, cette pleine conviction de notre demande, de la justesse de notre demande, et la pleine conviction que Dieu est souverain et pourra ne pas répondre ou pas comme on le demande, de gérer ça dans nos esprits, c'est pas très très simple. Mais c'est impératif. Parce que, et on le voit avec Élie, qui insiste lourdement et qui a sa réponse. Dieu prend soin d'Élie dans son corps. Et il le fait à titre préventif. Dans le chapitre 17, il dit, va-t'en d'ici. Il lui dit de s'éloigner. Puis après, il lui dit, lève-toi, va à Sarepta. Il le fait à titre curatif. Lève-toi, mange. Parce qu'il est en train de, il est en train de se laisser aller. Dans le chapitre 19, Élie ne mange plus, il veut mourir, et donc il ne mange plus. Et Dieu vient le voir en lui disant, lève-toi et mange. Deux fois il lui dit ça. Lève-toi et mange. Et la raison pour laquelle, je ne l'ai pas mentionné là, mais la raison pour laquelle il lui demande, lève-toi et mange, parce que le chemin qui est devant toi est difficile. Il faut que tu résistes. Et donc Dieu a préparé un chemin dans lequel va marcher Élie. Mais pour ça, il faut aussi qu'il soit bien physiquement. Alors évidemment, il va prendre soin de son esprit aussi, mais déjà physiquement, Dieu s'occupe de nous et subvient à ce que nous avons, de ce dont nous avons besoin. Dieu prend soin d'Élie aussi dans son esprit, en le poussant à regarder la situation comme lui la voit. Hein? Alors qu'il lui a dit... Va-t'en, lève-toi, va à tel endroit. Il vient le voir, Dieu vient voir Élie en disant, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est étonnant comme question, alors que c'est lui qui lui a dit d'aller à tel endroit. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et ce qu'est-ce que tu fais ici, c'est pas tellement qu'est-ce que tu fais ici, là, physiquement. Où tu en es? Où tu en es avec moi? Est-ce que vous avez déjà entendu cette question posé par Dieu, où est-ce que tu en es avec moi? On l'entend de temps en temps. Et Dieu a besoin de lui poser deux fois la question. Hein. Et sa réponse est dans la jalousie pour Dieu. Donc dans un premier temps, Élie dit, mais ça fallait bien, c'est pour toi que je l'ai fait. C'est pour toi que j'ai fait tout ça. Donc il se justifie, c'est vraiment la propre justification. Et Dieu est obligé de revenir, qu'est-ce que tu fais ici? Pose-toi la question de là où tu en es avec moi. Et donc Dieu va se montrer. Et au chapitre 19, verset 12, au chapitre 19, verset 12, on lit, et après le feu, il entend une voix douce et subtile. Et Élie comprend que Dieu est dans cette voie. Il va le, et là, il tombe sur sa face et il comprend. Et il comprend la bonté et la tendresse de Dieu. Après avoir expérimenté la puissance, c'est presque la puissance à sa main, parce que quand il fait tomber le feu, c'est presque à sa main, Élie est complètement perdu. Et là, il a besoin de comprendre que Dieu l'aime. Et il va le comprendre là. Et Dieu lui montre qu'il n'est pas seul. Il lui révèle quelque chose de son plan. À la fois en transmission, c'est-à-dire qu'il ne restera pas seul, et sa mission et son job, hein, en quelque sorte, sa mission de prophète ne s'arrêtera pas avec lui. Il y a Élisée qui va prendre la suite, mais en plus, je me suis réservé 7 000 hommes qui n'ont pas fléchi devant Baal, on lit au verset 18 du chapitre 19. Et ce petit passage, il est repris en Romains. Ce passage-là. Et donc ça vaut le coup d'aller voir ce que Dieu est en train d'expliquer à Élie, qui n'est pas forcément expliqué dans les rois. Et là, on a la compréhension de ce que Dieu est en train de dire en disant qu'il s'est réservé 7 000 hommes qui sont restés fidèles. Le peuple qu'il a choisi, le peuple Israël, ne sera pas détruit. Et Élie, qui croyait être le seul qui continuait à adorer Dieu, il n'est pas seul. Et dans l'Épître aux Romains, on voit ce parallèle et même ce remplacement d'Israël, peuple de Dieu, par l'Église. Et il peut y avoir des attaques, il peut y avoir des pays où on est en tout petit nombre, des pays où même on se croit seul comme chrétien, mais Dieu a des genoux qui n'ont pas fléchi, des cœurs qui sont à lui dans chacun de ces pays. Et en plus grand nombre, souvent, que ce que les uns et les autres croient de l'extérieur ou de l'intérieur. Quand je dis Israël ne disparaîtra pas, je voudrais juste lever une ambiguïté. Je considère, et on peut partager là-dessus, que Israël politique aujourd'hui n'est pas l'Israël de la parole. C'est-à-dire que Israël pays aujourd'hui identifié avec son gouvernement, etc., il n'y a pas identité entre Israël vu dont il est parlé dans la parole, peuple élu de Dieu, et Israël politique. Donc quand je parle d'Israël, je ne parle pas d'Israël politique aujourd'hui, quels que soient ses agissements ou ce qu'on peut penser de lui, mais je parle bien d'Israël en tant que peuple élu. Et avec le nouvel Israël que l'on constitue en tant qu'Église. Continue. Je vais finir avec ce que... Que ce passage nous apprend de Christ. Vous savez que le Seigneur, sur la montagne qu'on appelle de la Transfiguration, est entouré par deux personnes qui sont Élie et Moïse. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a des points communs entre Élie et Moïse. Le premier point commun, c'est qu'il y a eu des périodes de découragement, de doute. Des périodes où l'un et l'autre, malgré l'appel qu'ils ont reçu, doutent de leur capacité, un, à le mettre en œuvre, mais en plus, doutent de ce qu'ils ont fait. Les deux personnages ont désiré voir la gloire de Dieu, la gloire ou la puissance de Dieu, selon les demandes. Les deux ont demandé à Dieu, mais je veux te voir. Et les deux, dans leur expérience de rencontre de Dieu, ont expérimenté de rencontrer la tendresse et la bonté du Seigneur, de Dieu. Là où après ils ont vu des manifestations après avoir vu des manifestations de puissance, ils ont découvert et ils ont rencontré la bonté et la douceur et la tendresse de Dieu. Et ces deux-là, évidemment, alors même si sur Moïse on n'a pas la même On n'a pas tout à fait la même description de son départ de la terre. On ne sait pas exactement, mais il n'y a pas de description non plus de sa mort. Il y a quelque chose peut-être sur son tombeau, mais on ne sait pas bien. Et donc, on peut penser que les deux, en tout cas, ont vécu un passage, n'ont pas vécu le passage de la mort. Et symptomatiquement, c'est ces deux personnes qui viennent s'entretenir avec le Seigneur. Et ce que ça nous dit, la parole nous dit en Luc, précisément, ils s'entretiennent et ils discutaient au sujet de sa mort. Eux qui ne sont pas passés par la mort, en tout cas pour Moïse, c'est pas très clair, mais en tout cas Élie n'est pas passé par la mort, ils viennent s'entretenir avec le Seigneur au sujet de sa mort. Et je trouve que c'est très beau que ça nous parle de l'humanité de Christ. Christ ne pouvait pas désirer ces moments-là. Et donc il y a deux personnes qui ont vu la bonté de Dieu, qui viennent échanger avec Christ sur sa mort. Et ça nous montre que même Christ avait besoin de cet encouragement-là. Pourtant, il était Dieu. Il savait. Mais ce qu'il allait vivre était tellement dur, tellement difficile, tellement inacceptable pour Dieu. Hein. C'est inacceptable, c'est un scandale, parce que la parole utilise ce terme. Scandale de la croix. C'était tellement inacceptable qu'il y a deux personnes qui ont vu la bonté et la tendresse de Dieu, qui viennent quelque part lui rappeler. Alors c'est étonnant de dire ça, parce que bien sûr le Seigneur il connaissait. Il était Dieu, il savait ça. Mais ils viennent échanger au sujet de sa mort avec cet arrière-plan et cette expérimentation qu'ils ont eu. Et il ne nous est pas dit que le Seigneur doute. Hein. Eux ont eu des doutes, mais l'expression c'est qu'il est angoissé face à la mort. Il n'est pas dit qu'il avait un doute sur son chemin, le Seigneur. Hein. Il ne doute pas de sa mission et de ce qu'il doit faire et de là où il va. Il le sait. Mais il y a une angoisse en tant qu'homme qui devait être calmée, qui devait être aidée. Il y a une angoisse. Et ça, je trouve que c'est extrêmement beau de voir que Dieu, non seulement s'incarne dans un petit être de rien du tout comme on est, mais en plus éprouve les angoisses qu'on peut éprouver et bien au-delà, évidemment, mais dans sa parfaite humanité, éprouve la difficulté face à la mort, l'angoisse face à la mort. Nos bas à nous sont formés de doutes, sont formés de remises en question, mais les moments difficiles pour le Seigneur sont des moments d'angoisse. Et c'est d'autant plus exacerbé plutôt, ces moments d'angoisse, qu'il a parfaite connaissance du chemin et qu'il a parfaite connaissance du combat qu'il va y avoir. Et donc il y a une angoisse encore décuplée peut-être, enfin décuplée, plus en tout cas multipliée par sa parfaite connaissance des circonstances qui l'attendent. Et puis je voudrais juste finir avec cette remarque que ce qu'on peut considérer comme des bas du Seigneur à vue humaine, et qui est notamment cette grande défaite à la croix, à la vue humaine, en fait c'est là qu'on voit que sa grande gloire et son amour qui montrent leur apogée. Et c'est quand il est petit aux yeux des hommes, quand il est plus rien, que nous pouvons voir qu'en fait il est grand et qu'il est le grand Dieu sauveur qui veut attirer à lui tous les hommes.